Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous aviez été pasteur à l'époque de l'apôtre Paul, de laquelle église auriez-vous être pasteur? Il y a une église, vous avez vu les églises d'Éphèse, de Rome. Est-ce qu'il y a une église qui, quand vous avez lu les épîtres, qui vous montre que c'est une bonne église? La meilleure, c'est l'église de Thessalonique. Si vous avez regardé l'épître aux Thessaloniciens, c'est vraiment dans l'Apocalypse, oui. Mais là, c'est une église, il y a vraiment des éloges qui sont faits à cette église. Et pourtant, dans cette église, 1 Thessaloniciens chapitre 3, Paul écrit ceci. Je voudrais qu'on le lise ensemble, s'il vous plaît. Il écrit quelque chose qui, je crois, est bon pour nous. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, il veut faire quelque chose, il écrit dans ce but, et je suis convaincu que c'est ce dont nous avons absolument besoin ce soir, de comprendre que Dieu veut nous amener beaucoup plus loin. Regardez 1 Thessaloniciens, chapitre 3, regardez ce qu'il dit. Il dit ceci, « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Et pourtant, si vous lisez, regardez le début de cette épître, regardez le verset 3, verset 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse, regardez, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance. » Quand vous lisez les deux épîtres, vous dites, c'est une église, franchement, où vous auriez souhaité être le pasteur si c'était le cas. C'est une église que moi j'aurais choisi en tous les cas. Et pourtant, Paul leur écrit, voilà, moi je vous écris pour compléter ce qui manque à votre foi. Est-ce que vous pensez qu'il nous manque certaines choses? Bien sûr, il nous manque à tous certaines choses, on n'est pas conscient de certaines de nos manques. C'est une église, regardez, on va survoler le chapitre 3, voyez, au verset 2. « Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. » Voyez, c'est une église, elle a besoin d'être affermie et exhortée au sujet de votre foi. Au verset 5, il dit ainsi, « Dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi. » Dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté. Au verset 6, « Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez nous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi. » Au verset 7, « En conséquence, frère, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. » Je vous assure, c'est une église qui allait bien. Et pourtant, le Saint-Esprit va les aider à ce qu'ils soient complétés dans leur foi. Et je crois que nous aussi, nous voulons que Dieu complète les choses à notre foi. Je vous ai parlé mardi dernier de ce témoignage que j'avais vécu à Albi, de cette réunion qui s'est transformée en réunion de prière, et nous avons prié pour les besoins. Et tous les jeunes qui étaient là ont prié, tous. Certains n'avaient jamais prié, et ils ont compris, vous savez, il y a des choses que le Saint-Esprit nous montre parfois. On peut dire, faites ci, faites ça, bon, les gens ne le font pas. Mais il y a des choses où le Saint-Esprit nous convainc que c'est notre place, c'est ce que Dieu nous demande. Et tous les jeunes, je me souviens, ont prié, et je vous l'ai dit, ces 5 jeunes qui étaient au chômage ont tous trouvé du travail dans la semaine. Je pensais tout à l'heure à ce témoignage aussi d'une sœur qui venait de prendre la retraite avec son mari. Ça faisait 2 ans ou 3 ans qu'ils vendaient leur ferme. Vendre une ferme avec un grand terrain, ce n'est pas évident. Et cette sœur, j'allais la voir de temps en temps. Et un jour, je vais la voir. Elle était fatiguée, elle était découragée. Elle me dit, oui, je suis fatiguée. Il y a 2 ans ou 3 ans qu'on est à la retraite. On n'arrive pas à vendre notre ferme. On voudrait acheter une maison à côté de chez notre fille. On ne trouve rien. On est découragée. Je dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Pourquoi vous ne dites pas à l'église? Oh, on n'ose pas, il y a des problèmes plus graves. Le matériel, pour certaines personnes, le matériel, c'est secondaire. Et c'est vrai. Mais parfois, ça peut être l'occasion de faire une expérience avec Dieu. C'était un lundi, je me rappelle. Et le mardi soir, j'ai dit à l'église, écoutez, voilà, monsieur et madame Untel, ils ont des problèmes avec leur ferme, ils n'arrivent pas à la vendre, ils veulent trouver une grande maison, c'était des gens qui étaient très aisés, ils voulaient trouver une belle maison à côté de chez leur fille. Le mercredi soir, elle m'appelle, elle me dit, monsieur Go, vous ne le croirez pas, on a vendu la ferme, on a trouvé une belle maison à côté de chez notre fille. Moi, je crois vraiment que Dieu veut nous donner certaines leçons et que nous apprenions à prier les uns pour les autres. Alors, on va en parler dimanche de la délivrance de la timidité, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et moi, je vous assure, pas en tant que chrétien, je veux dire, moi, je respecte que les gens soient discrets, que les gens soient réservés. Vous savez, on a tous notre personnalité. Mais je crois que la personnalité, l'état de cœur, c'est une chose, mais après, il y a l'état d'esprit. Et si le Seigneur nous demande de prier tous ensemble, de prier les uns pour les autres, de combattre le bon combat de la foi, ce sont des choses que nous devons faire. Et c'est vrai qu'il y a des frères que nous n'entendons pas, des sœurs que nous n'entendons pas. Alors nous, on n'est pas là, on n'est pas des gourous pour dire « prier, élever la voix ». Mais quand même, je crois que dans l'Église primitive, une fois qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ensemble, ils priaient tous ensemble et ils voyaient certaines choses se manifester dans l'Église de Jérusalem. Alors, moi je suis persuadé que si le Saint-Esprit me pousse à aborder ce sujet, c'est pour compléter ce qui manque à notre foi. Car c'est bien joli de faire valoir ce qui va bien. Est-ce qu'il y a des choses qui vont bien dans l'Église ? Bien sûr, il y a plein de choses qui vont bien, et même très très bien. Mais ce n'est pas parce que plein de choses vont bien qu'il ne faut pas compléter ce qui manque à notre foi. Et mes frères et sœurs, béni soit Dieu pour la discrétion. Est-ce que c'est une qualité d'être discret ? C'est bien d'être discret. Il y a des gens, ils sont extravertis, trop, c'est gênant. Il y a des gens, ils sont tout le temps en train de dire des choses qui ne nous regardent pas. Bon, c'est pénible. La discrétion, être réservé, ce sont des qualités. Mais franchement, il ne faudrait pas que ces qualités deviennent des défauts en nous privant de prier pour des besoins qui sont là dans l'Église. Je ne sais pas, moi, si quelqu'un est malade ce soir, est-ce que ça vaut la peine qu'on lui impose les mains et qu'on s'unisse tous pour prier pour lui ? Moi, je pense que oui. Franchement, et je voudrais que nous réfléchissions à ce sujet, à la fois local, à la fois personnel, à la fois peut-être dans le cadre du couple. Il y a des couples qui m'ont dit, moi je ne prie pas avec ma femme, j'ai honte. Je dis, comment ça ? Vous êtes dans le même lit avec votre femme et vous n'osez pas prier avec ? Eh bien non, on a honte. Moi je crois que ce sont des pièges dans lesquels le diable nous a fait tomber. Vous ne croyez pas mes frères et sœurs ? Alors, avançons et faisons attention de ne pas passer à côté. Moi il y a un texte qui m'a beaucoup interpellé, il y a des années. Et je me demandais ce que ça voulait dire. Regardez avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 6. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce texte. Dans Marc au chapitre 6 et au verset 45, il y a cette fameuse tempête où les disciples sont malmenés et Jésus va les rejoindre en marchant sur l'eau. On n'aborde jamais le verset 48. À la fin du verset 48, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais moi c'est écrit pour que nous comprenions que nous pouvons empêcher le Seigneur d'intervenir. Marc 6, 48. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire, et vers 3 heures du matin, il alla vers eux, marchant sur la mer, et regardez les mots qui suivent, et il voulait les dépasser. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à cette expression, c'est quand même écrit. Et je crois qu'il y a des fois où nous avons laissé passer le Seigneur et nous ne l'avons pas arrêté. D'ailleurs, combien d'hommes et de femmes, parce qu'il nous est rapporté les miracles qui se sont passés à Jérusalem ou ailleurs, mais combien de gens ont dû rester chez eux, dire « bon, mais écoute, s'il est souverain, il viendra à la maison ». Je ne sais pas ce qui a pu se passer. Mais il y a des gens qui sont passés à côté de la bénédiction. C'est certain. Et je ne voudrais pas que nous, étant dans une église, nous passions à côté. Et si le Seigneur me l'a mis à cœur, c'est parce que c'est évident. Dieu ne va pas me mettre à cœur des choses qui ne correspondraient pas aux besoins de l'église. Moi, je suis persuadé qu'il y a des fois où nous avons laissé le Seigneur passer et nous n'avons pas crié. Crier, ça veut dire que la foi a été plus forte que le doute. Ça veut dire ça, crier. Ce n'est pas hurler dans l'église. Ça veut dire que véritablement, je crois que le Seigneur, il veut s'arrêter. S'il est au milieu de nous, c'est pour agir. S'il nous parle par sa parole, c'est parce qu'il veut nous bénir. Et il ne faut pas qu'il passe et qu'on le laisse filer. Ils les ont arrêtés, ils ont crié. Et Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et il est intervenu. Est-ce que vous voulez que Dieu intervienne ? Parce qu'il y a des tempêtes qui durent des fois trop longtemps. Et comme cette affaire de cette ferme qui ne se vendait pas, comme ces 5 jeunes qui n'avaient pas de boulot, moi je crois que c'est la volonté de Dieu que tous nos jeunes aient un travail. Est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu ? Franchement, moi j'entends qu'il y a des églises où il y en a 10, 15, 20 au chômage. Moi je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu. Et je crois que des fois, on devrait, au-delà de la souveraineté de Dieu, comprendre que Dieu attend que nous exprimions notre foi. Il l'a très 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 bien fait lorsqu'il a inspiré le Saint-Esprit. Et chaque fois qu'un homme était guéri, qu'un homme était sauvé, Jésus ne disait pas « ma puissance t'a guéri parce que Dieu t'aime, je t'ai guéri ». Dieu disait « ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri ». Il indiquait par là qu'il faut que nous participions à la bénédiction. Et je voudrais que nous soyons tous conscients de cette faille qu'il peut y avoir dans notre cœur de devenir fataliste, de laisser faire les choses. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont fatalistes. Ben, on verra bien, Dieu fera comme il voudra, s'il veut me donner du boulot, il me donnera du boulot. Mais Dieu veut que les gens travaillent. Et vous savez, moi, des fois, j'entends des chrétiens parler, ils n'ont pas la foi. Ils viennent à l'église, ils sont sérieux. C'est pas parce qu'on est sérieux qu'on a une foi vivante. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont très pieux moralement, mais qui spirituellement ont une foi complètement éteinte, complètement morte. Et moi, je voudrais qu'on vive ce cantique, qu'on chante des fois, « Ma foi est vivante en un Dieu vivant ». Vous vous rappelez cet homme qui était un centenier et que Jésus a admiré? C'est quand même, heureusement que c'est écrit dans la Bible, sinon personne ne le croirait. Il est quand même dit que Jésus a admiré un homme qui n'était même pas religieux. Il était même pas, on sait pas sûr qu'il était sauvé même en plus, au moment où cette affaire s'est passée. Jésus l'a admiré à cause de sa foi, parce qu'il avait une foi qui a fait mouvoir le bras de Dieu. Et cet homme s'est entendu dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cet homme a fait valoir sa foi et il a vu la bénédiction qu'il attendait. Je ne sais pas s'il y a une bénédiction que vous attendez. Je ne sais pas si vous voulez voir la gloire de Dieu. Mais mes frères et sœurs, ça ne passera pas par le fatalisme et ça ne passera pas par la timidité, ça ne passera pas par la réserve. Non, je crois que dans le royaume de Dieu, il faut que nous ayons une foi vivante. Alléluia. Et que nous devenions une église vivante. Je parlais de ces 5 jeunes. Alors, je crois que Dieu nous... Tout le monde a prié. Et je crois que Dieu nous attend. Cette ferme qui a été vendue, tout le monde a prié, parce que bon, on n'était pas nombreux dans l'église, on était 35 au culte, vous voyez, 35-40, mais à la réunion de prière, on était 20-25. Et tout le monde priait. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un beau témoignage? Pourquoi on ne prie pas? Pourquoi on ne prie pas? Alors je ne répondais pas, mais pourquoi je ne prie pas? Pourquoi je ne prie pas haute voix? Pourquoi je n'ose pas prier? Alors, c'est des questions qu'il faut que nous nous posions. Mais vous allez me dire, oui, mais si je le fais pour le faire, mais bien sûr, on ne va pas le faire pour le faire. C'est clair que ça ne tient pas debout. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que Dieu veut? Vous avez lu le livre des Actes? Si vous avez du mal à répondre à mes questions, lisez le livre des Actes. Et vous verrez comment Dieu peut changer le cœur de certaines personnes lorsqu'elles se mettent à avoir cette vie de l'esprit. Quand on voit l'apôtre Pierre, comment il était dans les évangiles, et quand on voit le même apôtre dans le livre des Actes, franchement, si vous avez lu consciencieusement, vous vous dites, c'est pas le même Pierre. C'est pas le même. Si vous le lisez, franchement, vous avez vu la différence entre Pierre avant la Pentecôte et Pierre après la Pentecôte. C'est une histoire incroyable. Eh bien, pourquoi? Il s'est passé quelque chose. Cet homme, il a expérimenté la communion avec Dieu. Il a expérimenté le baptême du Saint-Esprit. C'est un homme qui n'a plus peur de rien. Vous le voyez, quand on leur promet presque qu'ils vont mourir, ils s'en fichent éperdument. Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lisez les premiers chapitres des Actes et vous verrez que c'est un homme qui n'a pas peur de la mort. Lui qui avait dit dans les évangiles certaines choses qu'il n'a pas pu tenir. Et il ne mentait pas. Mais il lui manquait cette dimension et je ne voudrais pas, mes frères et sœurs, que le diable nous promène dans certaines défaites alors que nous avons un Dieu qui peut nous faire toujours triompher. Est-ce que vous le croyez qu'on a un Dieu qui peut nous faire toujours triompher? Et ça peut partir de, je parlais de ce centenier, il n'avait pas une grande connaissance, je vous ai dit, et je le pense, j'étais pas sûr qu'il soit sauvé, alors qu'il avait une foi qui était beaucoup plus saine que les religieux qui disaient, oui, il mérite, vous voyez, quand on est dans la religion du mérite, la propre justice, il mérite que tu lui accordes, il a construit notre synagogue, alors ce serait bien que tu fasses quelque chose, vous voyez un peu cet mauvais état d'esprit, et lui qui n'était pas encore sauvé, pas loin de l'être en tous les cas, et il était plus dans la vérité, puisqu'il disait « je ne suis pas digne ». Voyez, il avait entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que nous connaissons de Jésus? Quand vous regardez ce texte, il avait entendu parler de Jésus. Et les témoignages qu'il a entendus lui ont permis de faire une expérience extraordinaire. Que connaissons-nous de Jésus? Ce soir, qu'est-ce que vous connaissez de Jésus? Chacun, vous pourriez écrire certaines choses quand même. Ben moi, je connais ça, j'ai fait telle expérience, mais je sais. Vous pourriez en écrire des choses sur ce que Jésus pour vous? Est-ce que vous pourriez écrire trois lignes, trois pages, un livre? Qu'est-ce que vous pourriez écrire? Quelques pages? Je pense que plusieurs parmi nous pourraient écrire énormément de choses sur ce que représente Jésus. Bon, mais ce que nous savons de Jésus devrait nous permettre d'avoir une foi vivante et de dire, mais c'est vrai, il ne faut pas que je reste passif, on verra bien. Moi c'est une expression qui finit par me fatiguer. Oh, si Dieu veut. Mais Jésus a dit, demandez. Vous vous rappelez ce gars qui était dans la nuit, il était au lit, il voulait pas se lever pour donner du pain. Et Jésus a dit, mais il devrait se lever à cause de son importunité. Et moi, je vous dis, et moi, c'est Jésus qui signe. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il continue avec une parabole encore plus profonde sur l'importance de recevoir. Et moi, je me dis, mais combien de chrétiens parmi nous sont en train de passer à côté de certaines expériences? Que voulons-nous exactement? Parce que vous savez, il nous sera fait selon notre foi. On parlait dimanche avec une chrétienne qui me parlait de délivrance. Je dis, mais la délivrance, si on ne la veut pas, on ne l'aura pas. Si on ne la veut pas, on ne la veut pas. Est-ce que Jésus était capable de délivrer Judas de l'amour de l'argent? Est-ce que Judas aurait eu maintes occasions pour être libéré? Sérieusement, s'il y en avait un qui pouvait expérimenter la puissance de Dieu, c'était bien Judas qui était un proche, pas proche comme Jean, mais quand même, je ne sais pas si vous imaginez, c'est un pasteur qui a travaillé 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus. S'il y en avait bien un qui pouvait être délivré, c'est bien lui. Il ne l'a pas été parce qu'il ne le voulait pas. Dites-moi, si Judas, un soir, avait été voir Jésus, écoute Jésus, donne-moi 5 minutes, il faut que je parle avec toi. Vraiment, tu le sais en plus, tu connais mon problème, j'aime l'argent, ça va pas, je te suis pris de me délivrer, délivre-moi. Franchement, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus? Est-ce que Jésus l'aurait délivré? Mais bien sûr, et nous sommes pareils. Nous sommes là, des fois nous sommes esclaves de certains trucs. On est là, on verra bien, comme cette femme un jour qui s'est élevée pour l'imposition des mains. Et quand elle a vu une personne plus handicapée qu'elle venir, elle s'est rassise. J'ai dit, mais pourquoi vous vous êtes levée? Puis, oh, j'ai dit, cette personne, elle était plus malade que moi. Que Dieu la bénisse à elle. Moi, c'est pas grave. Ouais, alors ça nous fait rire, mais on passe à côté de cette grâce de Dieu. Moi, je crois que Dieu peut nous bénir à tous ce soir, nous parler à tous et nous dire, mais c'est vrai, ce que tu me dis au travers de ton serviteur, c'est la vérité. J'ai besoin d'avoir une foi vivante. Je deviens passif, je me laisse avoir. Je me laisse avoir par les défaites, parce que des défaites, des échecs, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Mais bien sûr qu'il y en a. Est-ce qu'on n'a pas tous des défaites, des échecs, des difficultés? Si nous ne participons pas, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Le local, est-ce que Dieu peut nous donner un local? Mais je crois qu'il faut le demander. Écoutez, si vous doutez de ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous ne connaissez pas la doctrine biblique. C'est un principe. Dieu donne, mais il faut que nous participions à ce don en demandant. Si vous le voyez tout le long de la parole de Dieu, même quand Dieu a ouvert la mer Rouge, il fallait que Josué étende sa main. Vous pouvez lire n'importe quel texte. Chaque fois que Dieu a même fait un miracle, il y a la participation de la personne. C'est pas, à part des prodiges, je ne parle pas des prodiges, mais chaque fois qu'il y a eu un miracle, il y a eu la participation de l'homme. Et nous devons véritablement nous poser toute la question, dire, mais est-ce que je deviens passif? Est-ce que je compte sur l'ambiance de l'Église? Et c'est vrai qu'on est en paix, et c'est vrai qu'on est heureux, etc. Mais moi, je crois que Dieu veut compléter ce qui manque à notre foi. Et que nous devrions presque tous nous battre, oui, si un jour on se bat, on se castagne, parce que oui, tu m'empêches de prier, eh bien c'est bien. Mes frères et sœurs, moi je crois qu'on devrait avoir des réunions de prière, on soit obligé d'arrêter, arrêter de prier, arrêter, c'est l'heure de la réunion. Vous ne croyez pas? Mes frères et sœurs, je le dis de cette façon-là, mais je vous exhorte, véritablement, je voudrais compléter de la part de Dieu ce qui manque à votre, à notre foi, pour que nous ne passions pas à côté de bénédictions, surtout ceux qui ne prient pas. Moi j'ai vu des jeunes, quand ils se mariaient, on ne les entendait plus prier. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ben vous savez, c'est pas évident, le couple. Moi, je crois que c'est bien d'être célibataire, c'est bien d'être marié, c'est quoi qui est bien? Vous savez, moi, je vous dis quelque chose, c'est une parenthèse, mais moi, j'ai vu ceux qui souffraient du célibat, et ils souffraient souvent après du mariage. Vous entendez? C'est souvent arrivé. Je crois qu'il faut accepter d'être bien quand on est seul, et puis dire, Seigneur, voilà, ce sera bien quand on sera marié. C'est une parenthèse, hein, mais je pense qu'il fallait la dire, peut-être. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous avons tous reçu une mesure de foi, tous. Dieu n'oserait pas nous demander quelque chose si nous n'avions pas les armes pour le faire. Le diable, il est capable de faire un truc pareil. Mais Dieu jamais n'oserait nous demander de faire quelque chose. Il nous a tout donné pour que nous puissions accomplir son œuvre. Je voudrais terminer en priant pour les malades ou ceux qui ont besoin d'une victoire. Peut-être cette victoire sur la timidité. Parce que je crois qu'on peut avoir on peut prendre une victoire. Ça sera le sujet de dimanche, si Dieu me le met toujours à cœur. Et je vous demande d'ailleurs de prier pour le culte de dimanche, pour qu'il y ait des victoires et des délivrances de tous ces chrétiens qui se sont embourbés dans le fatalisme. Je voudrais terminer avec l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand même, quand on voit la vie de l'apôtre Paul, c'est impressionnant le nombre d'épreuves qu'il a traversées. Vous êtes d'accord avec moi? Partout où il est allé, presque partout, il a rencontré de l'opposition. Oui ou non? Si on devait résumer, j'essaie de le résumer. Mais en fait, il a connu des trucs terribles. Il a été fouetté, il a été laissé pour mort, il a été persécuté, il a fait naufrage. Enfin, c'est une histoire incroyable. Et pourtant, il a traversé une épreuve qui ne lui a pas plu. Il a reçu une écharde. Cette écharde l'a amené à supplier Dieu qui à trois reprises, pour que Dieu lui retire cette écharde qui lui empêchait d'être efficace dans le ministère. Vous connaissez sa réponse, on a lu la réponse pour ceux qui découvrent l'évangile, 2 Corinthiens chapitre 12, il a reçu une écharde. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de recevoir des échardes, ça peut arriver? Oui, ça arrive, et si ce n'est pas arrivé, ça viendra. 2 Corinthiens chapitre 12, on a tous des épreuves, il y a des gens qui n'acceptent pas les épreuves, vous savez, moi je crois que pas un cheveu ne tombe sans que Dieu ne le sache, pas un passereau ne tombe sans que Dieu ne le veuille. Vous connaissez ces textes, ça veut dire que Dieu contrôle tous les détails de notre vie. Donc Dieu sait les épreuves par lesquelles nous devons passer. Est-ce que Dieu le sait? Oui, il le sait très bien. Donc Paul traverse une épreuve en plus de tout ce qu'il a traversé. Si vous voulez savoir le résumé de ce qu'il a traversé, vous lirez 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28. Vous lirez ça, vous verrez tout ce qu'il a traversé. Et il ne fait que le résumer. Je ne pensais pas que c'était de l'orgueil, mais il le résume. 2 Corinthiens 12, verset 7, qu'est-ce qui se passe? Verset 8, « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Je pense qu'il n'a pas prié 2 secondes. Je pense que ça a dû être des moments intenses de prière où il voulait être délivré. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors regardez la suite. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, c'est-à-dire les insultes, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Bon. Comment vous comprenez ça? C'est quand même, quand vous le lisez bien, ça fait quand même réfléchir. C'est un homme qui a vécu des choses incroyables. Vous lirez le résumé dans le chapitre 11 et vous allez voir quelque chose qui est important, que Dieu veut que nous comprenions. Paul entend de la part de Dieu que sa grâce suffira. Est-ce que vous le croyez, vous, que la grâce de Dieu vous suffira? Mais vraiment, il ne faut pas que ce soit théologique ou intellectuel, ou bien, de toute façon, on est obligé d'accepter, c'est la parole de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Non, je parle d'une manière réelle. Est-ce que vous croyez dans la grâce de Dieu tous les jours? Est-ce que vous y croyez? Alors ce texte, bien sûr, quand on prend du recul, nous parle des combats que l'on mène, des difficultés que l'on rencontre. Donc, on parle de victoire en même temps. Victoire, malgré tout ce tralala d'affaires, oui, d'accord. Mais une victoire n'est possible que s'il y a un combat, que s'il y a une bataille. Quand est-ce qu'on parle de victoire? Quand il y a eu un combat, oui ou non? On parle de victoire quand il y a eu une guerre. Tiens, il y a eu telle guerre, tel pays a remporté la victoire. Un vrai soldat, moi j'ai fait l'armée dans une compagnie de combat. Et je sais, j'ai vu quels étaient les vrais soldats et ceux qui tirent au flanc, comme on dit, qui cherchent tout le temps à ne pas aller à combattre et tout. J'ai connu ça. Un vrai soldat, il ne fuit pas le combat. Un vrai soldat, il l'affronte. Il y a des gens, dès qu'ils ont un peu d'épreuve, c'est terminé. Ah, si c'est comme ça, ben oui. Et bien c'est comme ça que les gens deviennent fatalistes. Des combats, on en a tous. Des difficultés, on en rencontre tous. Mais un vrai soldat, écoutez-moi bien, parce que ça part de là. Il faut prendre certaines considérations pour avancer dans cette affaire de timidité, de victoire. Un vrai soldat, il ne tourne pas le dos au jour du combat. J'ai souvent prêché, il y a peut-être 10 ans de ça, sur ce verset dans le psaume 78. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte. C'est un texte qui m'a beaucoup interpellé parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer dans les églises. C'est que beaucoup de chrétiens, ils ont des problèmes, on ne les entend plus. Ils ont des difficultés, c'est terminé. Regardez, psaume 78, le Seigneur fait un reproche terrible aux chrétiens. Regardez bien, psaume 78, on va lire que le verset qui nous intéresse. C'est le verset 8, la fin du verset 8. Les fils d'Éphraïm, non verset 9, les fils d'Éphraïm, donc c'est l'église pour nous, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. Mes frères et sœurs, que Dieu nous garde, parce que nous sommes dans des temps compliqués, des temps difficiles, des temps où la foi se refroidit, où l'amour se refroidit. C'est pas une prophétie de la fin des temps, ça ? À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ne nous leurrons pas. Il se peut que plusieurs d'entre nous soyons en train de commencer à tomber dans ce piège-là, à cause de tout ce qui se passe, et bien notre amour se refroidit. Et un chrétien, il tourne pas le dos au combat. Il dit, voilà, j'ai cette épreuve, j'ai ce combat, bon, mais c'est comme ça, soutenez-moi, voilà, priez avec moi, priez pour moi. Voilà, l'apôtre Paul, quand il était embarrassé dans tout ça, il disait, priez pour moi. Est-ce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, mais priez pour moi. Priez pour que je trouve un travail. Ça fait 3 mois que je suis au chômage, mais priez pour moi. Ina, priez pour moi, etc. Ludovic, priez pour... Vous ne pouvez pas demander ? Ah non, moi je n'ose pas. Mes frères et sœurs, je crois que c'est dommage. Paul écrit aux Thessaloniciens qui vont très très bien. Moi je vous dis, c'est une église qui va bien. Il dit, moi je vous écris pour compléter ce qui manque à votre foi. Et l'apôtre Paul, quand vous regardez le cursus, le chemin de l'apôtre Paul, vous vous rendez compte qu'un chrétien apprend à combattre le bon combat. Le bon combat de la foi. Ah bien sûr, si c'est le combat de l'incrédulité, si c'est le combat de la crainte, ah c'est sûr que ce combat-là, ça va pas vous donner envie de continuer. Et certains arrêtent, prennent du recul, etc., etc., parce qu'ils ne combattent pas le bon combat. Quand vous combattez le bon combat, vous avez cette approbation divine. Vous l'avez, c'est quelque chose qui est en vous. Vous sentez dans votre cœur que Dieu est derrière, il est là, il est avec vous et il vous fait grâce. Vous avez vu Paul, Paul qui écrit, on l'a lu tout à l'heure, dans nos angoisses et dans nos épreuves. Et déjà, dès qu'ils ont des angoisses ou des épreuves, est-ce que ça peut arriver des angoisses ? Est-ce que ça peut arriver une angoisse ? Ben oui, Paul en parle. Dans nos angoisses et dans nos épreuves, mais il ne vous décourage pas. Il ne vous décourage pas quand il parle de ses angoisses. Tiens donc, quand vous parlez de vos épreuves, est-ce que vous découragez les gens ou est-ce que vous leur faites du bien ? Est-ce que c'est bien de parler de ses épreuves ? Oui, ça peut être bien, si on en parle d'une manière objective et constructive. Regardez comment Paul parle de ses épreuves. Je vous le résume. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Voilà comment il parle au chrétien de ses épreuves. Il explique et puis il dit, mais oui, mais voilà comment ça se passe. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Triompher, ce n'est pas la victoire. Triompher, c'est l'aboutissement total. Une victoire, vous connaissez le texte, on a gagné une victoire, mais on n'a pas gagné la guerre. Tandis que le triomphe, c'est vraiment la victoire totale. Et quand Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous ferait toujours triompher », il ne dit pas qu'il nous donne la victoire. Le triomphe, ça veut dire que jusqu'à la fin, on aura la victoire totale par la grâce de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez des victoires ? Est-ce que tous vos enfants peuvent être sauvés ? Est-ce que vous le croyez, ça, que c'est la est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Voilà, le problème, c'est que les gens ne connaissent pas les promesses. Mais quand vous voyez la parole de Dieu, Dieu veut que toute notre famille soit bénie. Alors Seigneur, je crois que tu sauves mes enfants. Que ne dites pas comme une fois j'ai entendu, Seigneur, est-ce que tu veux sauver mon enfant ? Si tu veux me sauver mon enfant, s'il te plaît, sauve-le. Non mais écoute, il y a des prières, vous pouvez être un peu plus franc, je peux vous dire que Dieu veut sauver vos enfants. Si vous dites, Seigneur, est-ce que je dois gagner l'auto ? C'est pas la peine. Mais Seigneur, si tu veux sauver mon enfant, vous pouvez dire, Seigneur, sauve mon enfant. Quand vous dites, Seigneur, sauve mon fils, sauve ma fille, Dieu veut sauver votre fils. Et cette victoire, cette grâce, elle doit pénétrer de plus en plus dans l'Église. Serions-nous 3 fois moins nombreux ou 3 fois plus nombreux, chaque chrétien doit avoir du courage. Et dire, voilà, rien ne me séparera du Seigneur. Vous connaissez ce texte, on va le lire quand même pour étayer cette prédication. Romains 8, 34. Vous connaissez l'apôtre Paul encore. Pourtant, mais lisez ce qu'il a traversé et lisez comment il conclut. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a déjà, ils parlent de leurs épreuves, mais la conclusion, elle est un peu triste, négative. Tandis que quand vous voyez Paul, dans tout ce qu'il traverse, il pose une question. Il pose une question que Dieu nous pose automatiquement ce soir. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Parce que tout ça est basé sur l'amour. Nous croyons pas que c'est autre chose. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Oui, ça revient souvent, l'angoisse, mine de rien. Mais parce que c'est facile à comprendre. Ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Alors vous dites, moi, la faim, la nudité, j'avais les armoires pleines. Avec... Mais mes frères et sœurs, il y a des nudités spirituelles. Vous comprenez? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à jour, à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, il avait quelque chose en lui, c'est pas de l'autosuggestion. Tiens, c'était bien la réunion, ça m'a fait du bien. Ouais, je vais m'attacher à ça. Non, ça c'est pas ça humain ça. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, bien sûr les anges déchus, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il oublie quelque chose. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'il oublie? Nous-mêmes. Parce que nous, on peut nous séparer. On peut se séparer de l'amour du Seigneur. On peut nous-mêmes, sans que nous nous en rendions compte, tout en ayant une vie d'église, tout en parlant en langue, on peut petit à petit s'éloigner du Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous étonne peut-être, mais c'est la vérité. Un bon soldat, il surmonte le mal par le bien. Un bon soldat, il fait une entière confiance à son capitaine. Vous faites confiance à votre divin capitaine, hein? Dans les églises, on peut avoir un mauvais capitaine terrestre, mais il y a un capitaine spirituel avec pas quatre étoiles, avec des myriades d'étoiles sur les épaules. Est-ce que vous faites confiance à votre divin capitaine? Vous avez vu dans les outrages, dans les angoisses, il dit voilà, moi je serai plus que vainqueur. Moi, Seigneur, je te demande de me délivrer. Tu me laisses dans la faiblesse avec cette écharde. C'est pas grave. Ta grâce fera le complément. Vous le croyez? Il dit quand même, je me plais. Je veux dire, il dit pas bon, j'accepte parce qu'il faut accepter. Je me plais dans les outrages. Vous l'avez lu avec moi? Je me plais. Combien de chrétiens se plaisent dans les reproches, dans les insultes, dans les afflictions, dans les angoisses? Je crois que un chrétien peut le faire s'il est vraiment immergé dans l'amour du Seigneur. Il a des victoires, il a des expériences, c'est bien, il a des défaites. Seigneur, moi j'avance, je t'obéis. Et le verset avec lequel je voulais commencer cette réunion est un verset qui m'a beaucoup interpellé cet après-midi quand j'ai prié, mais vraiment interpellé, comme vous ne pouvez pas vous imaginer comment Dieu m'a interpellé. C'est dans le livre des Actes, il est dit, c'est Pierre qui parle justement, que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent. Mais vous ne pouvez pas savoir avec quelle intensité ce verset s'est imposé à mon cœur. D'ailleurs, j'ai failli prêcher là-dessus. Je pense que c'était peut-être pour moi que Dieu me le donnait. Mais une chose est certaine, mes frères et sœurs. Quand on résume la vie de l'apôtre Paul, il désirait pas faire la bénédiction. Il était déterminé. Et je crois que les gens déterminés, c'est les gens qui obéissent. C'est pour ça que je me suis permis de dire, il y a des gens qui parlent en langue et pourtant leur cœur se vide de l'amour du Seigneur. Mais quelqu'un qui obéit, son cœur ne se vide pas, son cœur se remplit. Alors, mes frères et sœurs, je ne sais pas où nous en sommes. Rappelez-vous comment Élisée était déterminé pour que le manteau d'Élie lui tombe dessus. Il était déterminé. Et je crois qu'il faut que nous prenions la victoire. Je ne sais pas quelle est votre personnalité, votre caractère, votre fatalisme, etc. Mais quand on est chrétien, on n'est pas embourbé dans ces trucs. Quand on est chrétien, Seigneur, tu veux que je sois déterminé. Tu dis que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alors tu m'appelles à être à ma place dans la réunion de prière. Tu m'as donné une voix. Vous savez qu'on pourrait être muet. Est-ce que vous savez qu'on pourrait être né muet? Est-ce que vous le savez? Donc la bouche, la langue, c'est une grâce de pouvoir parler. Vous êtes d'accord, mes sœurs? C'est une grâce de pouvoir parler. Oui ou non? Est-ce que c'est une grâce de parler? C'est un don que Dieu nous a fait. Et voyez, je voudrais, mes frères et sœurs, que nous terminions en demandant la grâce de Dieu.